Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors, pourquoi moi chante la comédie musicale Bernadette de Lourdes? Pourquoi il y a maintenant plus de 160 ans après les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, Bernadette Soubirous continue-t-elle d'intriguer? Pourquoi une petite fille d'un père ruiné contraint de garder le lit pour économiser ses forces, tant il n'a plus quoi même de quoi manger, a-t-elle été choisie pour voir une belle dame blanche? Car le médium, c'est le message, rappelle en bon communicant mon invité de ce matin. Bernadette Soubirous, c'est tout simplement le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en cette veille de la Sainte Bernadette. Nous sommes avec vous, François Venn, vous êtes directeur de la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre, vous êtes à Rome, vous êtes l'auteur de Bernadette Soubirous, je vais y arriver, paru aux éditions des presses de la Renaissance, et vous êtes en duplex depuis les studios de Radio Vatican. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, même si grâce à la technologie, il a été plus court que on n'avait pas prévu que vous veniez à Toulouse. Hein. C'est juste que je rentre de vacances, oui. Je m'en mêle les pinceaux.
Je suis heureux de retrouver les studios de Radio Vatican où j'avais été en stage quand j'étais jeune en 85.
Et puis, vous étiez aussi, donc, pendant de longues années, directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes. Alors, ma première question, ça serait tout simplement, vu de Rome, puisque c'est maintenant là-bas que vous habitez, avant qu'on se plonge un petit peu dans la vie de Bernadette, on essaye d'en parler régulièrement à cette antenne, sa vie toute simple, mais on va dire d'une grande profondeur. Est-ce qu'à Rome, Bernadette Soubirous est connue?
Ben, elle est connue et très aimée parce qu'il y a un lien très fort entre Lourdes et Rome depuis l'époque du pape Pie IX qui a considéré que la Sainte Vierge était venue à Lourdes pour confirmer le dogme de l'Immaculée Conception qu'il avait proclamé en 1854. Et du coup, dans les jardins du Vatican, il y a une grotte de Lourdes, la reproduction d'une grotte de Lourdes, où le pape va régulièrement, il y a des processions chaque année. Donc il y a un lien très fort entre Lourdes et Rome. C'est aussi le 11 février, donc la fête de la première apparition de Notre-Dame de Lourdes, qui a été choisie pour les accords du Latran qui ont réconcilié l'État italien avec le Vatican. Et donc chaque année, le 11 février, c'est une grande fête, c'est un jour de congé. Et on se rappelle ce lien, si vous voulez, cette protection céleste de la Vierge par rapport à l'Église.
Étonnant. Et de fait, je connaissais l'histoire de la grotte de Lourdes dans les jardins de Radio Vatican, enfin du Vatican, pardon, mais je ne connaissais pas cette mention des accords de Latran. Il y a maintenant quelques années que vous avez quitté donc Lourdes, vous avez passé, je crois, plus de presque 26 ans, c'est ça, hein?
Oui, je suis resté 26 ans, de l'âge de 24 ans à l'âge de 50 ans.
26 ans à Lourdes, donc Bernadette, vous la connaissez un petit peu.
Mais j'ai appris à l'aimer, oui.
Vous avez écrit donc ce livre, Bernadette Soubirous, tout simplement, j'ai repris le titre de votre livre. Pour commencer, je ne sais pas, comment vous introduiriez Bernadette pour ceux qui la connaissent un petit peu ou qui la connaissent mal? Est-ce important de se pencher sur Bernadette autant que de se pencher sur les apparitions de Lourdes?
Bernadette, elle est transparente, elle est rayonnante aussi de bon sens, et quelque part, elle nous révèle la Vierge Marie, quoi. Elle est un peu le reflet de l'apparition dont elle a témoigné. Et elle est toute simple, elle est humble, elle est née dans une famille de meuniers à Lourdes en 1844. Elle aimait beaucoup son papa et sa maman qui, c'était un mariage d'amour. François et Louise s'étaient mariés vraiment parce qu'ils s'aimaient, et à l'époque c'était pas forcément courant. Et la maman Louise était la fille d'un meunier qui était mort, et donc il fallait absolument marier l'aîné du moulin, et c'est François qui a choisi donc d'épouser Louise, et ils ont été heureux pendant une dizaine d'années. Bernadette est née un an après leur mariage, elle a été baptisée le jour anniversaire d'ailleurs de leur mariage. Le premier anniversaire de leur mariage, et elle admirait beaucoup son papa, qui était un peu son roi avec son béret plein de farine. Et puis il y a eu des malheurs.
Vous racontez peut-être, si on s'arrête justement sur le début de sa vie, vous racontez donc qu'elle a eu une enfance heureuse, Tout comme Thérèse de Lisieux, qui est une autre grande sainte française dont on parle souvent, et parfois on a des images comme ça sur les vies de saints, on a l'impression que leur vie n'a été qu'un long calvaire. J'ai le souvenir d'un invité qui me disait, avec un accent du sud, mais elle a pompé l'amour, cette gosse. Elle laisse entendre qu'elle avait été bien heureuse. Racontez-nous un peu le bonheur de cette famille avant qu'on parle des difficultés qui se sont accumulées.
Ben, j'avais beaucoup parlé quand j'étais arrivé à Lourdes avec le père Borde, qui était un prêtre pyrénéen, qui était le recteur du sanctuaire de Lourdes, avec qui je faisais du ski, et il me parlait de Bernadette comme si il l'avait connue, il l'aimait beaucoup, et il disait que l'amour de ses parents, ça avait été la vitamine de croissance de Bernadette. Et donc ça, c'était important aussi pour la suite, c'est-à-dire comprendre qu'elle a été vraiment aimée, et qu'elle a vécu dans une famille unie. Elle avait des frères et sœurs, une petite sœur qui s'appelait Marie, trois petits frères, Jean-Marie, Justin, Pierre, qui est né après les apparitions. Donc ils étaient ensemble dans ce moulin. Le papa était très généreux. Il faisait crédit. C'est un peu pour ça aussi qu'il a fait faillite. Et ils accueillaient de temps en temps Saint-Michel Garicoït, le saint de Bétharram, vous avez peut-être entendu parler.
Un petit peu, oui.
Qui a joué un rôle important après pour soutenir Bernadette. D'ailleurs, le chapelet que Bernadette avait au moment des apparitions venait de Bétharram. Donc il y avait ces missionnaires qui venaient au moulin demander de l'argent pour les missions, et François, le papa, était assez généreux avec eux. Donc elle a vécu à la fois dans une ambiance d'amour de ses parents, et puis de cette générosité du papa qu'elle a gardée, puisque par exemple elle a jamais voulu recevoir d'argent après les apparitions. Elle disait « ça me brûle ». Donc elle a eu une éducation tournée vers les autres et absolument, généreuse. Voilà.
Alors avant qu'on parle des difficultés de son père, autour des apparitions, on imagine toujours que la Vierge Marie apparaît à des bergers, parce que c'est souvent le cas dans l'histoire des apparitions reconnues par l'Église. Bernadette était-elle bergère ou pas, ne serait-ce que par intermittence, François Venn?
Ben, elle a été bergère à un moment donné, mais elle était surtout la fille du meunier. Bon, quand à un moment donné le papa a fait faillite, il y a eu une épidémie de choléra aussi. Elle en a gardé un asthme tenace après, et ils ont dû quitter le moulin en 1854. Ça a été difficile pour eux. Ils ont échoué au cachot, qui était le rez-de-chaussée puant d'une ancienne prison qu'avait mis à leur disposition un cousin, le cousin Sajous. Et donc à ce moment-là, Bernadette a été placée chez sa nourrice pour aller garder les moutons à Bartrès, pas loin de Lourdes. Donc là, elle a été bergère, si vous voulez, un moment, mais c'est vraiment un épisode assez court dans sa vie, puisqu'elle a voulu revenir à Lourdes assez vite, puisqu'elle voulait faire sa communion. Elle avait 14 ans, elle voulait être comme tout le monde. Elle n'avait pas fait sa communion, elle n'avait pas appris à lire. Et donc, c'est au moment où elle revient à Lourdes, après avoir passé quelques mois donc à Bartrès, à garder les moutons de sa nourrice, qu'a eu l'événement, le fameux événement des apparitions, qui a changé sa vie et qui a changé l'histoire de Lourdes aussi.
Alors, venons-y à ces apparitions. On reviendra peut-être un petit peu à son papa, parce qu'on présente parfois son papa François comme un bon à rien, mais c'est, donc vous l'avez rappelé, hein, c'est quand même quelqu'un qui a eu un accident et qui aussi faisait très largement crédit aux pauvres. Et du coup, ses affaires se sont compliquées.
Ouais, il a eu un œil crevé en repiquant ses meules. Et donc ça a été après une cascade de malheurs à partir de cet accident.
Alors les apparitions, il y a eu 18 apparitions donc de la Vierge Marie à Bernadette de Lourdes. On reviendra un peu plus longuement dans la deuxième partie sur les apparitions, surtout sur la première. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces apparitions qui, peut-être pour commencer le contexte, vous y revenez au début de votre livre. Vous avez tout un développement où vous laissez entendre que le ciel ne se trompe pas dans ce qu'il fait, du moins on l'espère. En tout cas, vous expliquez que le diocèse de Tarbes, à l'époque, était dans une sorte de grande prière. Expliquez-nous un peu le contexte religieux qui était celui du diocèse à cette époque.
Ben, c'est surtout le contexte de l'Église. Je vous ai parlé de Pie IX tout à l'heure. Il était en train de perdre son pouvoir temporel, on va dire, à Rome. Et il avait demandé aux évêques de prier pour lui. Et du coup, Monseigneur Laurence, qui était l'évêque du diocèse, avait fait un mandement en janvier 1858, en demandant à tous les curés du diocèse d'organiser des prières publiques et d'inviter des prédicateurs à prêcher pendant 15 jours, pendant le carême. Et le curé de Lourdes n'avait pas trouvé de prédicateur, et donc il semble que soit la Sainte Vierge elle-même qui soit venue prêcher le carême à la grotte de Lourdes.
Voilà, donc c'est dans un contexte bien spécial que ces apparitions ont lieu. Alors les 18 apparitions donc à Lourdes, à Bernadette, c'est difficile de les résumer. Est-ce que on peut dire quoi qu'il y a quelques grands blocs d'apparitions, ou est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut sortir du lot? Comment vous présenteriez l'ensemble avant qu'on détaille ça un peu plus loin dans l'émission?
Ben, ce qui est intéressant aujourd'hui, on est le 17 février. À l'époque, le 17 février, c'était le mercredi des cendres. C'était donc le début du carême. Et la première apparition a eu lieu le jeudi qui précédait, c'est-à-dire le dernier jeudi avant le début du carême. Donc c'est des apparitions qui s'inscrivent dans ce cadre, si vous voulez, de changement du cœur, quoi, hein, puisque le carême chrétien, c'est une proposition de se rapprocher de Dieu, de changer de vie, etc. Donc c'est des apparitions qui restent actuelles parce qu'elles nous proposent de vivre ce cheminement avec le Seigneur pour entrer dans une vie nouvelle. Donc il y a les premières apparitions qui sont silencieuses, où c'est la rencontre en fait entre Marie, Bernadette, c'est pas encore que c'est la Sainte Vierge, elle l'appelle Akero, cela. Donc elle n'ose pas lui donner un nom jusqu'à ce que la Sainte Vierge lui donne elle-même son nom, mais ça va mettre du temps. Donc il y a ces premières rencontres, et puis après elle commence à parler parce que Bernadette va à la grotte avec la fille de l'huissier et puis une dame bourgeoise du pays qui disent à Bernadette, demande de lui d'écrire son nom sur un papier. Donc Bernadette tend le papier et la plume à la Sainte Vierge qui se met à rire et qui lui dit ce que j'ai à vous dire, c'est pas nécessaire de le mettre par écrit, mais venez me voir pendant 15 jours, enfin voulez-vous me faire la grâce de venir 15 jours? Donc elle la vouvoie, ça, ce qui touche beaucoup aussi Bernadette. Et elle lui parle de l'autre monde. Donc après, il y a ce cheminement, si vous voulez, d'amitié avec Bernadette. Et puis là, Bernadette est très belle, elle est rayonnante. On la compare à Rachel, qui était l'actrice la plus célèbre de l'époque, très belle. Et les gens viennent la voir à la grotte pour contempler son visage rayonnant. Et à un moment donné, autour du 25 février, elle se met à gratter la terre, à se barbouiller debout, et là tout le monde la prend pour une folle. Donc c'est une partie des apparitions qui est la plus importante en fait, mais
On y
qui a
reviendra
été
sur le thème de la
qui a
pénitence.
été la plus mal comprise. Et donc là, disons, c'est l'appel à la pénitence, au changement de cœur, voilà. Et puis la découverte de la source aussi. Et la troisième partie des apparitions, c'est, on va dire, dans la lumière de Pâques, en fait, c'est l'envoi en mission de Bernadette la dernière apparition où Bernadette dit elle était plus belle que jamais et elle la reverra pas, mais elle s'attachera à Jésus. Et c'est ça, finalement, la clé des apparitions, c'est de nous rapprocher du Christ pour nous permettre de vivre dès cette terre quelque chose de l'amour trinitaire.
Alors, vous dites que donc elle a tendu un papier à la Sainte Vierge, en tout cas cette belle dame qu'elle voyait au début, Akero aussi, je crois qu'elle l'appelait comme
Oui, on
ça.
l'appelait Aquero.
Et à un moment donc la Vierge a révélé son nom. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu parce que c'est comme si le ciel était venu confirmer un dogme qui avait été proclamé par l'Église. Réexpliquez-nous cette histoire. Quel est ce dogme qui avait été proclamé donc en 1854 par le pape Pie IX? Et comment la Vierge s'est-elle présentée à Bernadette?
Ben, Pie IX, il était en difficulté, comme je vous disais, et il avait perdu Rome, il est parti en exil. L'archevêque de Marseille l'avait invité à venir se réfugier à Marseille. Du coup, il est allé à Gaëta, pas loin de Naples, prendre le bateau pour aller à Marseille, le pape Pie IX. Et là, Gaëta, il s'est trouvé bien, c'était le royaume des deux Siciles, il était bien traité, et il allait tous les jours prier dans une chapelle, la chapelle de l'Annonciation, où il a eu l'intuition de proclamer, il a tout perdu, si vous voulez, et il a eu l'intuition de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception, un peu d'appeler Marie au secours. Et donc il a écrit à tous les évêques du monde de l'époque pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Ils ont répondu qu'ils étaient d'accord. Et il a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, qui était une manière de réaffirmer son pouvoir spirituel, enfin son magistère spirituel, au moment où l'Église perdait son pouvoir temporel. Et c'est en fait le mystère de l'Immaculée Conception, il est pas facile à résumer en deux mots. Le père Kolb, qui est un franciscain qui est mort à Auschwitz, il a passé sa vie à essayer de comprendre ce mystère. Mais pour dire les choses simplement, l'Immaculée Conception, c'est la conception que Dieu se fait de l'humanité réconciliée avec lui. C'est-à-dire c'est une humanité guérie du péché, une humanité voilà qui vit, qui est capable de s'intégrer à l'amour trinitaire pour l'éternité. Et Bernadette va recevoir ce nom en patois, parce que la Vierge ne lui parle pas en latin ni en français, elle lui parle en patois.
Donc en patois, c'est Quessoy era Immaculada Conceptio, c'est ça?
Voilà, et à force d'insister pour le nom, parce que le curé voulait rien entendre, curé de Lourdes, Bernadette demande à Marie, elle insiste beaucoup, et finalement, le 25 mars, le jour de l'Annonciation, Marie lui dit Quessoy era Immaculata Conception, donc je suis l'Immaculée Conception. Et Bernadette, elle ne comprend pas, elle court chez le curé en essayant de se rappeler de ce nom-là. Et là, quand elle dit le nom au curé Père Péramal, il craque complètement, quoi. Il comprend qu'elle ne pouvait pas inventer ça. Et donc, et ce qui est beau, c'est que l'apparition révèle son nom le jour de l'Annonciation. C'est-à-dire que Marie, le jour de l'Annonciation, elle est déjà pleine de celui qu'elle va nous donner. Donc, elle est déjà enceinte du Christ. Et du coup, en révélant son nom, elle ne tourne pas nos regards vers elle, mais vers lui. Et ça, c'est beau aussi de le mettre en relation avec la fameuse chapelle de l'Annonciation à Gaëta, où Pie IX avait eu l'intuition du dogme de l'Immaculée Conception. Tout est lié, comme dirait le pape François.
Alors Bernadette de Lourdes, si on finit à très grands traits sa biographie, avant de faire une première pause musicale, donc quitte Lourdes en 1866, c'est donc 8 ans après les apparitions de Lourdes, après ses 18 apparitions, et elle prendra le nom de sœur Marie Bernard, et elle mourra donc en 1879 à l'âge de 35 ans. Elle a donc passé 12 ans comme religieuse chez donc les religieuses de Nevers. On sait peu de choses en fait sur sa vie religieuse, si ce n'est, je rappelais ça en teasing ce matin dans l'émission, qu'elle a été une sœur discrète mais exemplaire à sa manière. Je retrouve plus le passage, mais il y a un passage dans votre livre où il y a une des sœurs qui rapporte que rien ne l'a distinguée sauf son exactitude, son empressement à accomplir ce qu'elle devait faire, et puis son extrême charité, ce qui est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette période de vie chez religieuse de Nevers, François Venn?
Ben, ce qui me touche aussi dans les confidences des sœurs qui ont vécu avec elle, c'est qu'elles disent qu'elle n'a jamais dit du mal de personne. Et ça, c'est quand même une caractéristique forte de Bernadette et du fruit, disons, de la grâce qu'elle avait reçue. Avant de rentrer chez les sœurs de Nevers, elle est restée pendant 6 ans à Lourdes, à l'hospice de ces sœurs de Nevers qui soignaient les malades. Donc elle a mis du temps avant de choisir sa vocation. Elle s'est pas décidée tout de suite. Ça a été long, ça a été un long cheminement. Elle était pauvre, elle voulait pas non plus abandonner sa famille. Enfin bon, et donc on peut retrouver chacun de nous dans Bernadette aussi toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à nos engagements dans l'Église, etc. Et quand elle est arrivée à Nevers, elle a raconté une fois pour toutes devant la communauté les apparitions. Et après, elle a cherché plutôt à se cacher et à vivre cet amour du Christ que Marie lui avait fait découvrir. Donc, elle s'est mise à soigner les malades. Enfin, son désir, c'était vraiment de soigner les malades. Donc, elle a été aide-infirmière à Nevers. Elle a été infirmière et elle a été aussi malade elle-même à un moment donné. On lui a dit, ben voilà, ton emploi, c'est d'être malade et de prier, quoi. Et elle a écrit une lettre à Pie IX, j'en reparle parce que c'est important, en lui disant que ben, elle voulait être son petit zouave, parce qu'à l'époque, il y avait des volontaires qui venaient aider le pape Pie IX dans ses difficultés, et notamment des Français, et ils étaient rassemblés sous le nom de zouave. Donc elle disait qu'elle voulait être le petit zouave du pape, mais que ses armes, ça serait, enfin, c'était le sacrifice et la prière. Et le sacrifice, en fait, c'était pas, on peut l'entendre aussi comme le service aux autres, c'est-à-dire le service des malades, l'ouverture à l'autre, l'amour du frère, voilà. C'est le sacrifice de sortir de soi-même.
Donc Bernadette Soubirous, donc sœur Marie Bernard, son nom de religieuse qui meurt donc en 1879. Elle sera béatifiée donc en 1925 et canonisée en 1933. Je vous propose, on fait une première pause musicale et puis on va vous retrouver François Venn en duplex depuis les studios de Radio Vatican. Après, pour parler un peu plus longuement des apparitions, en tout cas de la première, je me suis dit que c'était bien de s'arrêter sur la première. Je rappelle le titre de votre livre, Bernadette Soubirous, paru aux éditions des Presses de la Renaissance.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernadette Soubirous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette veille de Sainte Bernadette et presque une semaine après la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes avec vous, François Vavaine, vous êtes directeur de la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre, vous êtes à Rome, en duplex depuis les studios de Radio Vatican et vous êtes auteur donc de ce livre Bernadette Soubirous, paru aux éditions des Presses de la Renaissance. On s'est dit donc dans cette deuxième partie qu'on allait s'arrêter un peu plus longuement sur les apparitions et particulièrement sur la première, parce que quand on parle des apparitions, déjà certains peuvent être très surpris, hein, on peut imaginer qu'il y a quand même un certain nombre d'auditeurs qui peuvent avoir du mal à entrer dans cette réalité, et quand on en entend souvent parler, ou qu'on s'est déjà rendu à Lourdes, on finit par oublier exactement la manière dont ça s'est passé. Alors je vais citer votre livre, et vous-même vous citez Sainte Bernadette, si je ne me trompe pas. Elle dit la chose suivante à propos de la première apparition. « À peine si j'avais ôté le premier bas, puisqu'elle traverse donc le gave, vous nous réexpliquerez, j'entendis un bruit, comme si c'eût été un coup de vent. Alors j'ai tourné la tête du côté de la prairie, j'ai vu les arbres très calmes. J'ai continué à me déchausser, j'entendis encore le même bruit. Comme je levais la tête en regardant la grotte, j'aperçus une dame habillée de blanc, portant une robe blanche, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied de la couleur de la chaîne de son chapelet. » Cette première apparition, est-ce que vous prenez le temps de la contextualiser, de raconter la manière dont ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus, François Vavaine, pour nous aider à être avec Bernadette?
Ce qu'on peut dire, c'est que Bernadette, elle pensait plutôt à Mardi Gras ce jour-là, parce que le carême allait arriver. C'était, comme je vous disais, le jeudi 11 février, le dernier jeudi avant le mercredi des cendres, le début du carême. Donc Mardi Gras approchait et il aurait fallu pouvoir acheter de quoi faire des galettes, etc. Et elle vivait dans la famille la plus pauvre de Lourdes. On y vivait tous dans la même pièce, une ancienne prison, etc. Et ils avaient bien sûr pas d'argent. Le papa était au chômage, la maman faisait des ménages. Et donc elle part le matin avec sa petite sœur Toinette et avec une amie Jeanne chercher du bois, des os, enfin des choses qu'elle pourrait vendre à Lecina, qui était la chiffonnière. C'était un jour de marché le jeudi, et donc elles espéraient pouvoir revendre ça à la chiffonnière, qu'elle et elle le revendre aussi, et avec les sous acheter de quoi avoir à manger pour Mardi Gras, quoi. C'était ça. Et donc elles descendent vers le gave. Elles traversent pas le gave, hein, elles traversent un canal en fait dans la grotte, et elles vont vers la déchetterie, on va dire, municipale, parce que la grotte, à l'époque, c'était l'endroit où le porcher municipal menait ses porcs, ils s'appelaient Samson, et le gave déchargeait dans cette grotte tous les immondices, enfin, qu'on pouvait imaginer de l'époque, puisque tout partait, il n'y avait pas les toilettes comme aujourd'hui, tout partait au gave, hein. Toutes les choses des maisons étaient déversées dans le gave aussi. Donc... elles vont là, et on peut, quand on voit à Mani, par exemple, les enfants sur des décharges, en train de chercher des choses, on peut imaginer ce qu'elle vivait, Bernadette, ce jour-là, quoi. Elle allait chercher, donc, des choses à revendre, et en arrivant, comme elle avait de l'asthme, il fallait pas qu'elle prenne froid. Prendre froid, ça voulait dire aussi tousser la nuit et dans une pièce, empêcher tous les autres de dormir, etc. Donc sa maman lui avait bien recommandé de pas prendre froid, de faire attention. Sa sœur et l'amie Jeanne donc traversent le canal pour aller sur la déchetterie. Et on en reparlera de la déchetterie d'ailleurs, c'est intéressant, parce que la Géhenne, quand Jésus parle de l'enfer, la Géhenne à Jérusalem, c'était la déchetterie de Jérusalem. Et dans le... Donc l'enfer, si vous voulez.
Alors continuez juste sur les récits des apparitions. Donc elle traverse, oui. Moi ce que j'aimerais c'est que...
Donc elle traverse, mais elle traverse pas parce qu'elle a peur de prendre froid, quand elle voit que les deux autres pleurent parce que l'eau est froide, etc. Et donc elle hésite, et c'est au moment où elle est en train d'hésiter qu'elle entend comme un coup de vent. Alors elle se tourne, elle est étonnée parce que les peupliers bougent pas, et elle se tourne vers la grotte, et là elle voit une jeune femme lumineuse qui lui sourit. Et ça a été cette première rencontre silencieuse dont elle a témoigné après en remontant chez elle à ses amis. Elle voulait pas le dire, les autres avaient vu qu'il s'était passé quelque chose, donc elle lui a demandé ce qui s'était passé et elles l'ont raconté et ça a fait le tour de Lourdes. Ce qui fait que le dimanche suivant, elle est retournée à la grotte avec un peu de monde. C'était encore une apparition silencieuse. Et puis ainsi de suite pendant 18 fois, pendant 6 mois.
Alors juste sur cette première apparition, si on continue, alors je mis la main à ma poche, je pris mon chapelet, je voulais faire le signe de la croix, dit Bernadette, mais en vain, je ne pus pas porter la main au front, elle m'est tombée. Et elle ajoute, alors le saisissement s'empara plus fort de moi, cependant je ne m'en fus pas. La dame prit le chapelet qu'elle tenait entre ses mains et fit le signe de la croix. Dites-nous un mot de ce signe de croix, vous citez je crois plusieurs personnes. Qui disent que ce signe de croix avait quelque chose de très particulier.
Bernadette, elle disait, je savais que mon chapelet. Donc là, elle perd le peu qu'elle savait encore, c'est-à-dire elle arrive même pas à faire son signe de croix. Et comme je vous rappelle, elle sait pas lire ni écrire. Et c'est en fait en voyant l'apparition faire ce signe de croix qu'elle arrive à le refaire d'une manière nouvelle avec elle, donc d'une manière large, pénétrante, comme si elle s'enveloppait, si vous voulez, dans la Trinité finalement, parce que le signe de croix, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment une invitation à vivre en présence de Dieu. Et c'est aussi la grande découverte que les pèlerins font, moi, que j'ai pu faire aussi à Lourdes, c'est de refaire le signe de croix, non pas à la sauvette, comme on a l'habitude de le faire, mais d'une manière presque liturgique, voilà, comme si on reconnaissait qu'on vit en présence de Dieu qui nous enveloppe et qu'on est appelé dans l'éternité, à intégrer cette vie trinitaire dans l'amour, en commençant par aimer nos proches sur la terre.
Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des réactions. Vous y consacrez un certain nombre de pages dans votre livre, en tout cas au fil du livre, on découvre ça. D'abord, les fidèles. Au début, donc, le village de Lourdes, petit à petit, bruisse de cet événement. Une des petites soubirous aurait vu quelque chose. Alors, certains, on va dire, il y a les pour et les contre. Ça a été quoi, rapidement partagé, ou au contraire, il y a eu rapidement un engouement. Il y a eu de la médisance aussi à l'égard de Bernadette. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui se disait dans les chaumières à Lourdes?
D'abord, ça a étonné beaucoup parce que, je vous dis, c'était le lieu mal famé où les couples illégitimes se retrouvaient, etc. Enfin, c'était vraiment pas un lieu sacré. Alors, qu'il y ait une apparition dans un lieu comme ça posait pas mal de questions. Ils se sont demandé, les gens, si c'était pas plutôt une âme du purgatoire qui venait. Enfin bon. Alors, il y avait les pour et les contre, en effet. Et parmi les pour, il y avait, par exemple, Madame Paillasson qui était, pardon, Madame Millet. Madame Paillasson, elle faisait partie plutôt des contre. Madame Millet, chez qui la maman de Bernadette travaillait de temps en temps. Il y avait la fille de l'huissier aussi. Et donc, c'est elles qui vont accompagner Bernadette à l'apparition du 18 février où Marie va pas vouloir signer le papier et va commencer à parler avec Bernadette. Et puis, il y a les bourgeois qui discutent au café français. On est à l'époque des Lumières, donc on ricane de toutes les choses d'église, si vous voulez. Et là, il y a un receveur des contributions qui s'appelle Estrade, qui est tout à fait contre les apparitions, mais qui va aller voir ce qui se passe et qui va devenir le meilleur témoin en fait des apparitions auprès des bourgeois de la ville. Et puis le peuple a été touché par le témoignage de Antoine Nicolo. Antoine Nicolo, c'est un meunier qui travaille pas loin de la grotte au Moulin de sa vie et qui a été témoin à la deuxième apparition de ce que Bernadette a vécu. Il l'a raconté au cabaret qui était tenu par la tante de Bernadette, Bernarde, et tout Lourdes a été touché par le témoignage de ce garçon. Voilà, donc, et puis il y a aussi je vous parlais de Paillasson au début, en fait, la demoiselle Paillasson, elle a giflé Bernadette parce qu'elle trouvait que vraiment c'était pas possible qu'elle raconte des histoires pareilles. Voilà, et je sais pas, on peut continuer comme
Alors juste,
ça.
j'aimerais que qu'on sorte un petit peu de Lourdes et que vous nous, on revienne un peu au contexte général. Semble-t-il, alors on comprend hein, que les pouvoirs publics dans ces cas-là soient quelque peu surpris, mais vous vous arrêtez un peu sur le contexte politique. Vous rappelez que, enfin, vous laissez entendre que les pouvoirs publics pouvaient craindre que Bernadette soit manipulée par les royalistes. Alors pourquoi cette crainte et pourquoi était-ce aussi important à l'époque?
Ben, l'empereur Napoléon III, il est inquiet parce que il y a eu un attentat un mois avant, l'attentat Orsini. Il en a réchappé et donc l'ambiance est tendue, si vous voulez, dans le pays, enfin au pouvoir en tout cas. Et le fait qu'elle ait une ceinture bleue, l'apparition, etc. Il se demande, c'est la couleur des Bourbons. Il se demande si c'est pas un coup monté par les monarchistes pour revenir au pouvoir. Donc il y a tout ce contexte politique qui est important à prendre en compte. Et du coup le préfet donc fera interdire l'accès à la grotte, mettra des barrières. Ça va pas être facile comme ça du premier coup pour les autorités enfin d'accepter l'événement. Le commissaire Jacomet va interroger Bernadette pendant les apparitions. Il va y avoir aussi le procureur du Tour qui va à son tour l'interroger après l'apparition du 25 février, qui est l'apparition un peu compliquée où Bernadette se barbouille debout, etc. Voilà. Et ce qui va sauver la situation, peut-être, c'est la visite de l'amiral Brua, qui est la gouvernante du prince impérial, qui va venir à la grotte. Et on dit qu'elle aurait porté de l'ourde au petit prince qui était malade et qu'il aurait guéri. Enfin bon. Et donc l'empereur, finalement informé, étant en vacances, a décidé de faire lever les barrières en octobre 1858, ce qui a évidemment libéré aussi l'évêque, parce qu'à l'époque, le pouvoir politique, le pouvoir religieux étaient très liés. Et donc l'évêque aurait jamais osé. Comment dire, commencer une commission de chanoines pour interroger Bernadette si l'empereur avait pas donné son feu vert.
Parmi les réactions, donc il y a aussi le clergé, mais ça on en a parlé donc précédemment. Le curé avait du mal à croire Bernadette, loin s'en faut, et puis il a fini par être convaincu quand cette petite fille est revenue en disant que, en répétant les mots de la Sainte Vierge, que soy era Immaculada Concepción, Conceptio, donc on va dire confirmant le dogme de l'Immaculée Conception qui avait été proclamé 4 ans plus tôt. Petit clin d'œil, la presse a joué son rôle aussi, comme quoi la presse a du bon. C'est Louis, vous parlez d'un certain Louis Veuillot, directeur de l'Univers, qui a écrit un article qui a fait grand bruit. Racontez-nous un peu ce bon côté de la presse.
Oui, ben la presse est venue à enquêter et Louis Veuillot, il a été choqué aussi par l'attitude, disons, des autorités locales et son article a vraiment touché toute la France et a sans doute aussi influé le gouvernement. Donc c'est vrai que c'est un épisode important aussi. Puis après, il y aura aussi le livre d'Henri Lasserre qui fera connaître Lourdes au monde entier. Ce que vous disiez par rapport au clergé, quand même, c'est important parce que le clergé était absent complètement des apparitions. Et quand Marie dit à Bernadette, allez dire aux prêtres, etc., c'est vraiment aller dire à ceux qui ne sont pas venus, parce que tout le monde est venu, il y avait des milliers de personnes aux apparitions, et il n'y a pas eu, enfin, il y a eu un prêtre par hasard qui est venu, l'abbé Désirat, qui est venu le 1er mars, parce qu'il ne savait pas qu'en fait que le clergé ne devait pas y aller. Et il a été très frappé, il a dit que c'était un peu comme le vestibule du paradis. Et donc c'est, disons, plus la presse qui a favorisé la reconnaissance des apparitions que le clergé lui-même qui est resté très prudent.
Alors à propos de Bernadette, vous décrivez, enfin on sent entre les lignes dans votre livre, donc je rappelle Bernadette Soubirous, paru aux éditions des Presses de la Renaissance, la manière dont elle a vécu tout ça, ou en tout cas quelle était son attitude. Alors évidemment elle était prise dans les apparitions, on peut comprendre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de son attitude? On sent en fait au fil des pages de votre livre quand même une jeune fille qui est comment dire, qui est certes très très humble, mais qui a aussi une grande volonté et une certaine fermeté. Il me semble qu'une fois vous racontez qu'elle est reçue, je ne sais plus si c'est par l'évêque ou par un procureur, on l'invite à s'asseoir et puis elle laisse entendre avec un peu d'humour, si j'ai bien compris votre livre, qu'elle ne souhaitait pas qu'elle et sa mère, c'est ça, s'assied de peur de salir les fauteuils. Bref, ce n'est pas un personnage niais, si je puis me permettre cette remarque.
Non, elle est ignorante, donc elle n'a pas fait sa communion, elle sait pas lire et écrire, mais elle a du caractère, elle est pleine de bon sens, elle est très honnête avec elle-même et avec les autres, et c'est vrai qu'elle est, comment dire, quasiment persécutée quoi par les autorités puisque le commissaire Jacomet la convoque, essaye de la faire se contredire. Et elle, en sortant, elle se moque de lui. Elle disait il avait à son calot un pompon qui faisait tintin. Donc elle hésite pas, si vous voulez, à prendre du recul par rapport à ces personnages et à garder sa liberté. Et puis le procureur, là, vous disiez, il l'interroge aussi de manière assez insistante et il essaye aussi de la prendre en défaut. Et en sortant, elle se moque de lui en disant il faisait toujours des croix, c'est-à-dire il faisait des ratures quoi, quand elle parlait, parce qu'elle lui disait non, c'est pas ça que j'ai dit, etc. Et le curé, quand elle va demander au curé, enfin, quand elle va rapporter la demande de Marie de faire construire une chapelle et de venir en procession, le curé, il la croit pas, donc il demande un signe, etc. Et elle sort en disant bah, j'ai fait ma commission, voilà, s'il me croit pas, moi j'étais pas, en résumé, si, j'étais pas chargé de lui faire croire, mais de lui dire. Donc elle a cette autorité naturelle qui lui vient sans doute de l'équilibre qu'elle a reçu dans sa famille. Et elle est aussi, c'est l'aînée, si vous voulez, et dans les Pyrénées, dans les vallées pyrénéennes, les filles aînées ont les mêmes droits que les fils aînés. Donc elle est vraiment considérée comme l'héritière de la famille et elle est consciente aussi de ses responsabilités par rapport à sa famille. Ça, c'est important. Elle sait qu'elle représente vraiment les soubirous quoi, quand elle va devant ces autorités-là. Et puis elle est honnête. On essaie de la corrompre, de lui donner de l'argent. Elle dit non, ça me brûle. Elle veut jamais d'argent. Elle réprimande son petit frère quand, à un moment donné, il a accepté de l'argent des visiteurs. Donc elle a cette honnêteté foncière qui touche aussi beaucoup les gens. Et l'abbé Pomian, qui était son confesseur à Lourdes, qui était vicaire de la paroisse, il dira vraiment, elle est la meilleure preuve de l'apparition. Et c'est en gros ce que dira Monseigneur Laurence quand il va, l'évêque du diocèse, quand il reconnaîtra les apparitions 4 ans après. Il s'appuiera beaucoup sur ce bon sens, cette honnêteté de Bernadette.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de Bernadette. Vous nous parlerez de, non pas de ses secrets, mais en tout cas d'une lettre que lui avait écrite donc un prêtre à l'époque, qu'elle a gardée sur elle, qu'elle a copiée et recopiée, qui disent la ligne de vie qu'elle a essayé de tenir, ligne spirituelle et humaine. Et puis vous nous direz pour finir ce qu'on peut comprendre en fait de ces apparitions de Lourdes et de cette relation qu'a eue le ciel avec cette jeune fille, pardon, Bernadette Soubirous. Je rappelle le titre de votre livre, et bien c'est ce même nom, Bernadette Soubirous, paru aux éditions des Presses de la Renaissance.
Alan Mezan 92.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernadette Soubirous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec François Venn en duplex depuis les studios de Radio Vatican, auteur d'un ouvrage du même nom que le titre de cette émission, paru aux éditions des Presses de la Renaissance pour ceux qui nous rejoindraient. François Venn, avant qu'on se lance dans ce que j'ai annoncé avant la deuxième pause musicale, je me disais qu'il y a quand même une chose sur laquelle il faut s'arrêter. C'est cette fameuse phrase qui, semble-t-il, a été déformée. à propos du bonheur. Quelle a été la promesse de la Vierge Marie à l'égard de Bernadette? Vous dites qu'elle lui aurait dit qu'elle ne promettait pas de la rendre heureuse, non pas du bonheur de ce monde, mais de l'autre, et que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, je répète. Elle ne lui promettait pas de la rendre heureuse, non pas du bonheur de ce monde, mais de l'autre. Comment comprendre cette phrase qui a fait couler quand même pas mal d'encre?
Ben, c'est une parole que Bernadette a entendue le 18 février, donc la première fois que Marie lui a parlé. Elle ne savait pas encore que c'était Marie, au début des apparitions. Et quand elle lui a tendu cette feuille pour qu'elle écrive son nom, elle a dit non, ce que j'ai à vous dire, c'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Elle lui a proposé de venir 15 jours, lui donner ses rendez-vous de 15 jours. Et elle lui a dit, je vous promets pas de vous rendre heureuse du bonheur de ce monde, mais du bonheur de l'autre. En fait, c'est une traduction. Elle parle en patois, hein, Marie, à Bernadette, et c'est le père Borde dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un Pyrénéen de Bettepouey, avec qui je faisais beaucoup de ski, qui était recteur du sanctuaire pendant longtemps, et le père Laurentin aussi, avec qui je faisais du ski chaque année quand il venait à Lourdes pour le 11 février, qui m'ont donné cette interprétation qui à mon avis est assez juste, c'est-à-dire c'est pas que Marie a dit à Bernadette vous serez malheureuse dans ce monde et vous serez heureuse au ciel. C'était pas exactement ça, c'était plutôt ce que je vais vous proposer, c'est d'être heureuse d'une autre façon, pas par l'avoir, le pouvoir, le savoir, mais en aimant les autres, quoi. Et ce bonheur de l'autre monde, on peut déjà l'éprouver ici dans les relations à travers le pardon, la réconciliation, etc., pour s'entraîner à ensuite à vivre au cœur de la Trinité cette relation d'amour à laquelle on est invité.
Alors, à propos du précision faite et précision importante, hein, je me permets de passer à autre chose. Ça peut paraître un peu abrupt, mais comme le temps passe, j'aimerais qu'on se plonge dans la dernière partie de votre livre qui s'intitule donc le message. Vous rappelez, je l'ai dit, mais je le redis, que vous rappelez le propos d'un grand théoricien de la communication qui dit que le médium, c'est le message, mais ça, on aura compris au fil de cette émission. Mmh. Un peu plus loin, vous laissez entendre qu'il y a un peu trois temps, en fait, dans le message que Bernadette a reçu, trois temps qui doivent dire, à vous lire, un peu le mouvement qui est fondamentalement celui de l'Église. Je vous laisse rappeler ces trois temps. Vous dites que le premier, c'est tout simplement que Dieu choisit de s'adresser à une personne qui est exclue. Expliquez-nous ce que cela peut nous dire.
Mais en fait, tout à l'heure, vous parlez de la lettre du Père Alix. C'est important, peut-être, en introduction au message, d'en reparler. Mais c'était un prédicateur assez mondain qui avait été invité à prêcher pour l'installation de la statue de Marie à la grotte en 1864. Donc, 2 ans après la reconnaissance des apparitions. Et Bernadette n'a pas été présente à cette inauguration, le curé de Lourdes non plus, mais elle a parlé avec le prédicateur, ce père Alix, qui lui a confié à vouloir changer de vie, c'est-à-dire de laisser tomber les mondanités et devenir un prêtre plus évangélique. Elle a été touchée beaucoup par le témoignage de ce prêtre et par la lettre ensuite qu'il lui a écrite et qu'elle a gardée sur elle toute sa vie. Et dans cette lettre, il lui conseillait de garder toujours l'humilité, de vivre cette conversion permanente et de vivre dans la simplicité des enfants de Dieu. Et en fait, ces trois conseils qu'il lui donne, on les retrouve dans les trois temps des apparitions. C'est-à-dire, le premier temps, c'est être assez pauvre, si vous voulez, pour recevoir la visite de Dieu, c'est-à-dire être assez disponible à la grâce qu'il veut nous donner. Donc ça demande une certaine pauvreté de cœur. On ne parle pas forcément de pauvreté matérielle, mais de pauvreté de cœur. Et donc d'humilité, voilà. Et quand le fait d'être exclu, si vous voulez, c'est surtout qu'on s'exclut nous-mêmes de la grâce divine par le péché. Et donc c'est vrai que le lépreux dans l'évangile, c'est l'exclu par excellence, mais souvent c'est une manière de nous faire comprendre que l'exclusion, c'est surtout la maladie du péché, enfin le fait de penser qu'à soi, d'être jaloux, etc. Voilà. Et donc de sortir de cet état d'être pour accueillir une grâce de renouveau.
Alors ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, c'est que vous parlez de la réintégration du lépreux dans la communauté. Vous faites le parallèle donc avec ce qui est arrivé donc à la famille Soubirou, puisque oui. À la faveur des apparitions, ils sont passés, on va dire, de proscrit à nouveau intégré dans la communauté. D'ailleurs, dans votre livre, vous rappelez que son papa a retrouvé un travail, la gestion du moulin gras, et vous dites la chose suivante: l'humble famille de déshérités, la plus pauvre de Lourdes, est réintégrée dans la vie sociale.
Oui, et en fait, c'est une invitation aussi à ce qu'on réintègre, nous tous, le corps du Christ, c'est-à-dire qu'on guérisse nos relations sociales, parce que ce que Bernadette et sa famille ont vécu, c'est une image de ce que on vit tous quand on est séparé des autres par des événements et des actes, disons, qu'on a posés aussi. Donc c'est l'invitation à guérir en profondeur au fond de notre cœur et de guérir dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est la pénitence, en fait, c'est la conversion, c'est-à-dire se tourner vers l'autre, sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme. Donc ça, c'est le deuxième temps des apparitions, c'est être réintégré au corps du Christ qu'est l'Église, c'est-à-dire à cette solidarité, cette communion des saints qui fait que on est plus seul, quoi, voilà. Donc ça, c'est important de présenter la deuxième partie des apparitions sous cet angle-là.
Et troisième mouvement, donc vous dites... Pardon, allez-y, continuez.
D'ailleurs, Bernadette fera sa première communion pendant les apparitions, et donc elle sera aussi réintégrée au corps du Christ qu'est l'Église par cette première communion qu'elle fera.
Alors le troisième mouvement, c'est que donc Dieu s'adresse à l'exclu, l'exclu est réintégré, et le dernier, c'est le témoignage de ce même exclu. Expliquez-nous pourquoi on peut faire un peu ce parallèle avec les apparitions, ou ce que Bernadette a reçu et vécu.
Ben, par exemple, le 7 avril, elle va à la grotte avec un cierge, et la flamme du cierge ne la brûle pas. Et c'est un peu comme si elle était porteuse de cette lumière du Christ ressuscité dont elle va aller témoigner ensuite par sa vie religieuse et puis par sa prière et par le service des malades, puisqu'à Nevers, elle sera infirmière. Donc dans cette troisième phase, si vous voulez, c'est la prière et le service en même temps. C'est passer en permanence de l'Annonciation à la Visitation. Marie qui reçoit cette grâce de la visite de l'ange qui lui dit qu'elle va porter le Sauveur, et au lieu de rester fermée sur ce don, elle va rendre visite à sa cousine Elisabeth, elle va lui rendre service. Donc c'est passer sans cesse, quoi, de cet accueil de la grâce divine au service des frères. Et ça, c'est ça le témoignage, en fait. Témoignage des hospitaliers qui accompagnent les malades à Lourdes, et le témoignage de notre vie quotidienne de chrétien, de recevoir dans la prière la force de sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre.
Alors, vous avez parlé du miracle du cierge. J'aimerais qu'on finisse là-dessus, puisque ça peut faire un peu spectaculaire de le rappeler, mais le corps de Bernadette est incorruptible, c'est-à-dire que son corps ne se dégraderait pas. Il y a, semble-t-il, c'est le cas pour un certain nombre de saints. Est-ce que vous pouvez donc le miracle du cierge, je rappelle, c'est qu'une fois donc Bernadette tenait un cierge et le cierge ne lui brûlait pas la main alors que les flammes, on va dire, mangeaient brûlaient sa chair. Quid de ce corps incorruptible? Vous avez été pendant 25 ans donc au sanctuaire de Lourdes et entre autres directeur de la communication de ce sanctuaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça veut dire un corps incorruptible?
Ben, disons que c'était le mercredi de Pâques, le fameux 7 avril, donc quand il y a eu ce miracle du cierge, et Bernadette, elle est morte 21 ans plus tard, un mercredi de Pâques aussi. Donc il y a sûrement un lien, si vous voulez, entre cette apparition, ce phénomène, et le fait que son corps soit resté intact. C'est comme un clin d'œil de Dieu pour nous dire qu'on est invité à participer à la vie du Christ ressuscité, une fois qu'on a réintégré donc la communion de l'Église. Et ce corps intact, je pense que c'est vraiment le signe de l'invitation qui nous est faite de vivre comme des ressuscités déjà sur la terre et d'avoir cette foi en la résurrection du Seigneur et dans l'invitation à participer à cette vie éternelle dans la lumière du ressuscité et dans la Trinité. Moi, je le vois comme ça. Et Bernadette ne voulait pas revenir à Lourdes, donc souvent, les pèlerins vont voir à Nevers son corps intact dans cette chasse. et médite comme ça devant, disons, la beauté aussi de notre corps qui est appelé à être temple de l'Esprit Saint. Et du coup, l'invitation à nous comporter aussi comme des porteurs de ce cierge pascal qu'on a reçu au baptême et pour en témoigner dans nos relations, dans nos rencontres, jusqu'au bout.
Eh ben, merci beaucoup François Venn d'avoir pris le temps de faire ce petit détour par les studios de Radio Vatican. On remercie les studios de Radio Vatican d'avoir permis cela. Et merci aussi à Francky Guéret. Je rappelle le titre de votre livre, Bernadette Soubirous, paru aux éditions des Presses de la Renaissance. Un grand merci à vous.
Merci Emmanuel, merci à vous tous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.